Raffaello Pelagatti et Jésus-Christ extraterrestre. Bien des gens soutiennent que le Christ est un extraterrestre. Raffaello Pelagatti l'a lui aussi soutenu pendant toute sa vie de 19 à 50 ans environ, âge auquel il est décédé. Voilà un exemple de ce qu'une simple idée jetée en l'air peut ruiner la vie de quelqu'un. Il disait que Jésus-Christ était un extraterrestre probablement tombé d'un missile la nuit de Noël, ou bien un extraterrestre illégitime abandonné par trois tueurs à gages, débarqué d'un astronef et habillé comme les rois mages. Après quoi, les rois seraient retournés à bord, en effet on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Pour tout le reste, c'était un homme prêt à discuter et à trouver un compromis, mais pas sur les rois mages. Il disait aussi que Jésus s'était en quelque sorte embourgeoisé, qu'ayant été abandonné dans son jeune âge, il était devenu pareil à nous, les hommes. Alors que, du point de vue de la pureté de leur race, les rois mages étaient beaucoup plus importants. Qu'il faudrait d'ailleurs vérifier s'ils n'étaient pas redescendus à d'autres reprises ici sur la terre pour jeter quelque chose, et si, par hasard, ils ne descendaient pas encore de temps à autre. Le problème étant de concilier tout ça avec le marxisme, Pelagatti étant marxiste convaincu. Lui-même n'y voyait pas de contre-indication. Pourtant, il passait sa vie dans les bagarres et l'incompréhension. Quand les marxistes disaient qu'en ce qui concernait les rois mages, il s'agissait d'infrastructures, ça le mettait hors de lui. Et il commençait tout de suite à leur flanquer des coups de poing de façon inconsidérée, surtout aux théoriciens et aux plus orthodoxes de son parti. Il disait aux marxistes qu'en fin de compte, lui aussi était athée et qu'un astronef, loin de contredire le marxisme, le diffusait dans l'arrière-pays sidéral. L'objection majeure qu'il lui faisait habituellement, c'était la présence des trois chameaux. Comment, lui disait le secrétaire de la cellule, surnommé Sicardi, comment, diable, les rois mages arrivent-ils sur des chameaux et pas dans des fusées? Lui répondait que les marxistes ont des idées préconçues et injustifiées contre les chameaux. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils connaissaient au système de propulsion extraterrestre? C'était pendant les années de forte intolérance politique, où l'on ne jurait que par Marx et Engels et où on se bagarrait facilement pour établir qui était dans le juste et qui ne l'était pas. En 1952, Pelagatti eut un bras cassé, le gauche. Quelques mois plus tard, c'est lui qui cassait le bras d'un curé. Car tout ce que les marxistes lui faisaient à la section, il le faisait aussi sec au curé. C'était une sorte de compensation psychique, un produit de l'époque, comme si les curés étaient uniquement faits pour que les marxistes défoulent leur névrose sur eux. Il perdit aussi quelques dents pour défendre sa théorie des rois mages. Mais en général, après les premières idées échangées, le comité de direction et le secrétaire en personne le jetaient par terre et le maintenaient fermement pendant que lui, Pelagatti, se démenait et distribuait à l'aveuglette dans la mesure où il le pouvait, coups de poing et coups de pied. Mais ils étaient tous contre lui, aussi finissaient-ils par avoir raison et par le faire taire pour poursuivre leur réunion politique. Si bien que le lendemain, Pelagatti, fou furieux, partait à la recherche du curé. Un seul d'entre eux faisait l'affaire pour équilibrer ses comptes. « Les rois mages voyageaient à bord d'astronefs, disait-il. » En général, le curé avait peur et dès qu'il l'entendait, il cherchait aussitôt à s'enfuir, car la réputation de Pelagatti, ennemi juré des curés, s'était répandue. Ce que Pelagatti voulait, c'était une discussion théologique, qui finissait toujours avant de commencer, parce que rien qu'à voir la tête du curé, Pelagatti flairait ses idées conformistes et rétrogrades sur les rois mages. Certaines fois, le prêtre se barricadait dans le confessionnal et Pelagatti l'interrogeait de l'extérieur. « Qui sont les rois mages ? » criait-il, et on l'entendait taper du poing sur le bois pour le faire sortir de sa tanière. Il faut préciser que si le prêtre était seul, Pelagatti l'écrabouillait, car un confessionnal est fait en bois léger. Mais il était rare que l'homme d'église fût isolé. Les enfants de cœur et les fidèles arrivaient aussitôt en renfort, et Pelagatti reculait quelque peu. « Je veux savoir, disait-il, pourquoi vous vous niez, ne serait-ce que la possibilité des astronefs ?» On savait que Pelagatti était marxiste et cela mettait des barrières. Pour cette raison, Pelagatti resta toute sa vie un isolé, habitué du commissariat et également sujet à des crises d'identité politique qui le plongeaient soit dans un mutisme obstiné, soit dans des logorées sur les moteurs des fusées et les chameaux des trois rois mages. Vers 1960, il se passa une chose curieuse. Au cours d'une de ses expéditions contre les curés, Pelagatti tomba sur l'un d'eux qui lui servit, si l'on peut dire, de cure définitive. Et plus étrange encore, ce curé, comme par une ironie du sort, s'appelait donc Pelacani. Don Pelacani était un curé de banlieue, exempté du service divin à cause de son âge avancé. C'était un grand fumeur et il soutenait la théorie suivante. Il disait que Marx et Engels, les marxistes se les étaient inventés et qu'à son avis ils n'avaient jamais existé. On comprenait rien qu'à voir leurs portraits avec leurs fausses barbes probablement louées. Lui supposait que c'était eux, marxistes quelconques complètement inconnus, sans doute des frères, qui les avaient inventés un jour de bringue avec les autres marxistes. D'après lui, il s'était collé des barbes et s'était présenté aux photographes comme Marx et Engels. Et comme ça arrangeait tout le mouvement marxiste, On balade depuis solennellement leurs portraits en cortège, même si ça saute aux yeux que les barbes sont fausses, collées et maintenues par un cordon, comme ça saute aux yeux qu'ils sont frères et même jumeaux, homozygotes, cachés précisément sous les pseudonymes d'Engels et de Marx. Don Pelacani se promenait avec Pelagatti, et tous deux étaient calmes. Ils discutaient des rois mages ou de Marx et Engels, mais sans interférer dans leurs thèses respectives. Il s'était établi entre eux un pacte tacite visant à respecter démocratiquement le champ de compétences de l'autre. On les voyait souvent assis en silence sur un banc. C'est drôle que l'un se soit appelé Pelagatti et l'autre Don Pelacani, mais ils vécurent à Varèse au moins jusqu'en 1965.